Alors bonsoir tout le monde. Ce soir, nous entrons au cœur de la question du rapport entre fiction et philosophie avec la conférence de Serge Champeau, qui parlera de Borges et la métaphysique. Serge Champeau, qui, avant d'être à la retraite, a été professeur en classe préparatoire, ce qui veut dire en France qu'il a formé des étudiants qui se présentent au concours pour les grandes écoles en France. Et il a publié en 1990, donc ça fait déjà 25 ans, un livre sur Borges et la métaphysique. Je vous rappelle que Borges, auteur argentin, né à la fin du 19e siècle et mort à Genève, où il est enterré au cimetière des Rois. La conférence est plus particulièrement basée sur une brève nouvelle de Borges intitulée « La parabole du palais » et nous allons commencer par la lecture de ce bref texte.
Otros se refieren de otro modo la historia. En el mundo no puede haber dos cosas iguales. Bastó, nos dicen, que el poeta pronunciara el poema para que desapareciera el palacio, como abolido y fulminado por la última sílaba. Tales leyendas, claro está, no pasan de ser ficciones literarias. El poeta era esclavo del emperador y murió como tal. Su composición cayó en el olvido porque merecía el olvido y sus descendientes buscan aún y no encontrarán la palabra del universo.
Ce jour-là, l'empereur Jaune fit visiter son palais au poète. Ils laissèrent derrière eux, en vaste perspective, les premières terrasses occidentales qui, tels les gradins d'un amphithéâtre, presque illimité descendait doucement vers un paradis ou un jardin dont les miroirs de métal et le réseau des haies et des genévriers préfiguraient déjà le labyrinthe. Au début, ils s'y perdirent avec plaisir, comme s'ils s'abandonnaient à un jeu. Ensuite, non sans inquiétude, parce que les avenues rectilignes étaient affectées d'une courbure insensible, quoique continue, en sorte qu'elles étaient secrètement circulaires. Vers minuit, l'observation des planètes et l'opportun sacrifice d'une tortue permirent aux promeneurs de se délivrer d'une région qui paraissait ensorcelée, mais non du sentiment d'être égaré, qui les accompagna jusqu'à la fin. Ils parcoururent des antichambres, des cours, des bibliothèques, une salle hexagonale avec une clepsydre, et un matin, ils aperçurent du haut d'une tour un homme de pierre qui ne revirent plus jamais. Ils traversèrent dans des barques de bois de santal de nombreux fleuves resplendissants ou nombre de fois un même fleuve. Le cortège impérial passait et les gens se prosternaient, mais un jour, ils abordèrent dans une île où un homme ne se prosterna pas parce qu'il n'avait jamais vu le Fils du ciel et le bourreau dut le décapiter. Leurs yeux virent avec indifférence de noires chevelures, des danses noires, des masques d'or compliqués. La réalité se confondait avec le rêve, ou mieux dit, le réel était une des configurations du rêve. Il paraissait impossible que la terre fût autre chose que jardin, eau, architecture et forme de la splendeur. Tous les 100 pas, une tour coupait le ciel. Pour les yeux, leur couleur était identique, mais la première de toutes était jaune et la dernière écarlate, tant la gradation était délicate et longue la série. C'est au pied de l'avant-dernière tour que le poète, qui demeurait comme étranger au spectacle qui émerveillait les autres, récita la brève composition qui est aujourd'hui indissolublement liée à son nom et qui, comme le répètent les historiens les plus subtils, lui octroyant en même temps l'immortalité et la mort. Le texte en est perdu. D'aucuns prétendent qu'il se composait d'un seul vers, d'autres d'un seul mot. Ce qu'il est certain et incroyable, c'est que le poème contenait la minutieuse totalité de l'immense palais, avec toutes ses célèbres porcelaines, chaque dessin de chaque porcelaine, les ombres et les lumières des crépuscules, et chaque instant malheureux ou heureux des glorieuses dynasties de mortels, de dieux et de dragons qui vécurent depuis l'interminable passé. Les assistants se turent, mais l'empereur s'écria « Tu m'as ravi mon palais !» Et l'épée de fer du bourreau faucha la vie du poète. D'autres racontent l'histoire autrement. Dans le monde, il ne saurait y avoir deux choses égales. Il a suffi, disent-ils, que le poète prononce le poème pour que le palais disparaisse, comme aboli et foudroyé par la dernière syllabe. Il est clair que de semblables légendes ne sont rien d'autre que des fictions littéraires. Le poète était l'esclave de l'empereur et il mourut comme tel. Sa composition tomba dans l'oubli parce qu'elle méritait l'oubli. Ses descendants cherchent encore, mais ne trouveront pas le mot qui résume l'univers.
Bonsoir à tous, je parle quand même français. Je vous remercie tous d'être venus ce soir m'écouter et dialoguer sur ce thème de la fiction et de la philosophie. Et je remercie bien évidemment Béa Michel et puis l'ensemble des organisateurs du groupe Vaudois de philosophie de m'avoir invité dans ce pays que je connais bien, que j'aime beaucoup, parce que j'ai été ma première année d'études supérieures s'est déroulée très près d'ici, à Annecy. Et le mercredi après-midi, j'allais tous les après-midi, tous les mercredis à Genève, en bibliothèque, au concert, etc. J'ai d'excellents souvenirs, et en particulier un jour, un souvenir, c'était en décembre 1968, c'est vieux, d'être allé, d'avoir découvert dans un temple de Genève une édition des psaumes traduite par le grand poète français Clément Marot. Et je suis resté tout l'après-midi à lire ces psaumes, et avec émerveillement, j'en suis ressorti avec un rhume, parce qu'à l'époque c'était assez peu chauffé, avec un grand rhume, mais heureusement aussi parce que le pasteur a eu pitié de moi en fermant, il m'a offert un de ces volumes que j'ai encore chez moi et que je lis toujours avec un grand plaisir. Bon, ceci pour l'anecdote. Je suis aussi très heureux d'être là parce que, par coïncidence, là aussi, Borges, comme l'a dit Béa, est enterré près d'ici, hein, pour de multiples raisons, dont une qu'il a formulée avant sa mort. Je vous dis juste une phrase en espagnol et je la traduis. Il parle des Suisses « Han tomado la extraña resolución de ser razonables. Han resuelto olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades. » Vous avez, je pense, à peu près compris. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'extraordinaire résolution d'être raisonnables, ou l'étrange résolution d'être raisonnables, et qu'ils ont décidé, resuelto, d'oublier leurs différences et d'accentuer leurs affinités. Alors certains trouveront, la Suisse a ses problèmes comme d'autres pays, que l'éloge est peut-être un peu exagéré, mais je crois quand même que dans le monde très désordonné dans lequel nous vivons, et dans l'Union européenne avec toutes ses difficultés, eh bien, la démocratie suisse, sans aucune flatterie, reste pour moi un idéal qu'elle illustre le courage d'être raisonnable, comme le dit Borges, et le courage d'être modéré, comme on pourrait dire. Je ne suis pas là pour parler de la Suisse, bien évidemment, et donc je passe immédiatement à cette nouvelle de Borges, cette courte nouvelle, ce conte de Borges, hein, et je propose d'interpréter le texte que vous venez d'entendre comme une fiction dont la fonction est de nous aider à penser la condition humaine. Avant de justifier cette affirmation, je voudrais cependant faire un tout petit détour sur une autre fiction, et vous comprendrez tout à fait à la fin la raison de ce détour. C'est une fiction voisine. Pascal, dans les Pensées, écrit un texte que certains d'entre vous connaissent peut-être, un texte magnifique, des lignes qui sont devenues très célèbres. « En voyant l'aveuglement et la misère de l'homme, en regardant tout l'univers muet, et l'homme sans lumière, abandonné à lui-même et comme égaré dans ce recoin de l'univers sans savoir qu'il y a mis, ce qu'il est venu faire, ce qu'il deviendra en mourant, incapable de toute connaissance, j'entre en effroi comme un homme qu'on aurait porté endormi sur une île déserte et effroyable et qui s'éveillerait sans connaître où il est et sans moyen d'en sortir. Alors Pascal commence, vous l'avez vu, par décrire ce qu'il appelle la condition misérable de l'homme, hein, tout l'univers muet et l'homme sans lumière, abandonné à lui-même. En d'autres termes, la présence de l'homme à l'univers et dans l'univers, hein, on verra la distinction, lui est incompréhensible. Et certains penseront qu'il aurait pu s'en tenir là, hein, tout simplement, bien énoncer une vérité, disons, philosophique. Et Pascal ne s'en tient pas là. Il continue par une comparaison, hein, qui prend la forme d'une très courte fiction. En voyant cette misère de l'homme, dit-il, je répète, hein, j'entre en effroi comme un homme qu'on aurait porté endormi dans une île déserte et effroyable et qui s'éveillerait sans connaître où il est et sans moyen d'en sortir. Alors il est clair, bien sûr, hein, tout le monde l'a compris, que l'île est ici une métaphore de l'univers, et il est tout aussi clair, hein, par le dernier mot du conte que vient de nous lire Béa, hein, il est clair que le palais et ses jardins labyrinthiques, hein, sont aussi, chez Borges, une métaphore de l'univers. Et si l'on compare systématiquement ces deux textes, que je vais faire en quelques minutes avant d'en venir vraiment au cœur du sujet, bien je crois qu'on voit un point commun et puis quelques différences. Alors le point commun, c'est que chez Pascal, l'univers incompréhensible fait naître un sentiment, l'effroi, hein, et ce sentiment apparaît lorsque Pascal a recours à la métaphore de l'île déserte. J'entre en effroi comme un homme qu'on aurait transporté, etc. Et vous avez vu que dans le texte de Borges, il en va de même, c'est-à-dire que métaphore et sentiment sont étroitement liés, puisque le palais que regarde l'empereur, hein, et le poète, qui sont une métaphore de l'univers, ce qu'on voit bien dans le dernier terme, hein, qu'a lu Béa, hein, la parole ou le mot qui résume l'univers. Hein. Donc le palais que regarde l'empereur et le poète, métaphore de l'univers, est dit incompréhensible. En espagnol, c'est inabarcable. C'est vraiment ce qu'on ne peut pas embrasser au sens propre, hein, comprendre au sens étymologique du terme, et il fait naître divers sentiments qu'on analysera tout à l'heure, en particulier l'inquiétude, puis le sentiment d'être perdu. Vous avez peut-être repéré au passage une gradation dans ces sentiments. Alors voilà le point commun, mais il y a des différences, et je commencerai par ces différences pour ensuite poser trois questions fondamentales sur le texte de Borges. Les différences, c'est que chez Pascal, l'homme a été transporté, vous l'avez vu, endormi sur l'île déserte. Donc on peut penser raisonnablement qu'il a gardé le souvenir de l'endroit où il vivait. Il est sur une île, hein, entouré par l'océan à l'infini, mais il a le souvenir d'un extérieur, hein, vers lequel il voudrait revenir sans pouvoir le faire. Chez Borges, petite différence, hein, vous avez vu que le palais et ses jardins sont quasi infini. Je dis quasi infini parce qu'il forme un labyrinthe. Ce qui caractérise un labyrinthe, c'est qu'il est quand même fini, mais qu'il donne l'impression d'être infini, puisqu'on erre sans cesse et apparemment sans fin dans ces corridors, hein. Mais il ne fait aucune allusion à un extérieur, sauf dans la première phrase, cependant, qui nous dit qu'un jour, l'empereur montra son palais au poète. Ce qui pourrait laisser entendre que le poète vient de l'extérieur. On l'examinera tout à l'heure, ce n'est pas aussi évident. Mais on peut noter quand même que Borges prend bien soin, hein, de commencer par cette phrase, c'est-à-dire de laisser l'extérieur, en quelque sorte, à l'extérieur du récit. Voilà une première différence. Une deuxième différence, évidemment, c'est que chez Borges, il y a deux personnages, alors que chez Pascal, il y en a qu'un. Il y a l'empereur et le poète. L'empereur, évidemment, nous fait penser je crois que c'est quand même très très clair, à Dieu, puisqu'il est le propriétaire du palais, et que le palais est l'univers. Chez Pascal, par contre, Dieu est absent, du moins dans le fragment que je vous ai lu, parce qu'il intervient quand même 10 lignes plus tard. En effet, après le texte que je vous ai lu, Pascal écrit ceci, il dit qu'il s'étonne, de nouveau un sentiment, que l'homme n'entre point en désespoir d'un si misérable état. Il s'étonne aussi que certains hommes s'attachent aux objets plaisants, ce qu'ils appellent le divertissement chez Pascal, qu'il rencontre dans l'univers, alors que lui n'a pu y prendre attache. Vous avez remarqué peut-être au passage dans le texte de Borges que le poète reste étranger à Reynaud, au spectacle. Et Pascal conclut par cette phrase, considérant combien il n'y a plus d'apparence, qu'il y a autre chose que ce que je vois. J'ai recherché si ce Dieu n'aurait point laissé quelques marques de soi. Donc il y a chez Pascal un deuxième personnage, mais ce deuxième personnage n'est pas sur l'île, bien sûr. Et l'homme en a simplement l'idée, il aurait pu laisser quelques traces de lui. Enfin, une dernière différence, avant d'en venir au texte de Borges lui-même, c'est qu'il y a un poète dans la fiction de Borges, et que ce poète, à la différence de l'homme de l'île de Pascal, est animé par une ambition, celle de dire l'univers dans sa totalité. En espagnol, le mot qui est employé, c'est la palabra del universo. Palabra signifie aussi bien mot que parole. Et puis tout le contexte montre, vous l'avez vu dans la lecture, que cette parole va dire l'intégralité de ce qu'il y a dans le palais. Et vous avez vu, donc la fiction de Borges est beaucoup plus complexe que celle de Pascal, puisque vous avez vu qu'à l'intérieur de ce récit, Borges va confronter 3 versions, pour en écarter 2, et puis en retenir une qui est, semble-t-il, la plus probable à la fin. Borges pose en effet la question de savoir si le poète a réussi ou non à dire cette parole. Et sa réponse est claire, les 2 premières versions sont fausses. Alors je rappelle ce que sont ces 2 premières versions. La première, c'est que le poète aurait réussi à dire la parole qui résume l'univers, mais du coup il aurait été mis à mort par l'empereur, on verra pourquoi. La deuxième, c'est celle selon laquelle il aurait réussi à le dire, mais cela aurait fait disparaître l'univers, le palais, on verra pourquoi également. Et la vérité, bien c'est la 3e version, c'est qu'il était esclave de l'empereur, donc probablement ne venant pas de l'extérieur, mais dans le palais, s'il est esclave de l'empereur. Et il n'a pas trouvé la parole qui dit l'univers. Et vous avez vu aussi bien dans le texte espagnol, même si vous ne parlez pas espagnol, ça doit être compréhensible, que dans le texte français, que personne ne peut trouver cette parole, pas davantage ceux qui, aujourd'hui, la cherchent encore. Et le conte s'arrête là-dessus. Alors la question que je voudrais poser est celle-ci. Pourquoi Pascal, c'est l'objet de mon introduction de ce soir, pourquoi Pascal et pourquoi Borges ont-ils recours à une fiction de ce type? C'est une fiction un peu différente, mais similaire, quand ils cherchent à parler de la condition de l'homme, de sa présence à et dans l'univers. Il y aurait une première réponse possible qui consisterait à dire, bien, la métaphore, la comparaison sont des procédés simplement illustratifs, pédagogiques, comme le sont pas mal de métaphores que nous utilisons tous les jours pour nous faire comprendre. Ce que je voudrais soutenir, c'est que ce n'est pas ça la bonne réponse, que si les poètes et les philosophes, chacun à leur manière, j'en parlerai à la fin, ont recours à des fictions, bien c'est tout simplement, c'est pour une autre raison, plus fondamentale, parce qu'il est impossible de parler de la condition humaine sans ces fictions. Parce qu'elles sont, comme le disait Kant dans un texte sur la poésie, Kant disait que de la poésie, qu'elle est un élan pour penser. C'est ce que je vais essayer de montrer en posant 3 questions au texte de Borges. La première, pourquoi Borges a-t-il recours à la métaphore ? En l'occurrence, la métaphore du labyrinthe pour parler de l'univers. La deuxième question, c'est quel sens donner à la présence dans cet univers d'un poète qui veut dire la totalité de l'univers, qui veut dire le mot qui résume l'univers et qui, visiblement, ne parvient pas à le faire. Et troisièmement, pourquoi Borges insiste-t-il autant, encore plus que Pascal, sur le lien entre dire la condition humaine, par une métaphore, et puis des sentiments? Parce qu'il y en a plusieurs, on le verra dans le texte de Borges, il y a l'inquiétude, mais il y a encore d'autres sentiments. Voilà les trois questions que j'aborderai successivement. La première, donc, pourquoi la métaphore du labyrinthe? Alors, naturellement, ceux d'entre vous qui ont une culture littéraire savent très bien que ce n'est pas la première fois qu'on parle de l'univers, loin de là, comme un labyrinthe. Ça a été fait d'innombrables fois, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas la perspective du critique littéraire ou de l'histoire littéraire. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi on a recours à une telle métaphore aussi souvent. Et pour répondre à cette question, je voudrais faire une distinction philosophique qui a été faite à plusieurs reprises dans la philosophie. C'est celle-ci. Le monde, l'univers, c'est un ensemble d'objets. Mais l'univers lui-même n'est pas un objet. Alors, ça a été dit de multiples manières par de nombreux philosophes, je le dis de manière simple, mais je crois que l'idée, c'est la suivante. Un objet, en effet, apparaît toujours sur fond de monde. Un objet, il est dans le monde. Et bien sûr, le monde n'apparaît pas lui-même sur fond de monde. Ce crayon est dans le monde n'est pas dans le monde, bien évidemment. Et de ce fait, l'univers est beaucoup plus difficile à dire que les objets. Par exemple, d'un objet, je peux dire qu'il existe, ou qu'il n'existe pas, ou qu'il n'existe plus. Il n'y a pas de mystère à cela. Ça veut dire qu'il n'est plus dans le monde, qu'il n'est pas dans le monde, qu'il était dans le monde, etc. Et quand je dis qu'il existe, ça veut dire qu'il aurait pu ne pas exister dans le monde. Les objets dans le monde sont contingents, ou qu'un objet ne reste là indéfiniment dans le monde. Par contre, Wittgenstein, le philosophe autrichien, fait remarquer quelque chose d'apparemment simple, mais que quand on dit « le monde existe », on ne sait pas trop ce qu'on veut dire. En tout cas, ça ne veut pas dire que le monde est au monde, est dans le monde. On vient de le voir. Mais, alors on peut dire, ça veut dire que le monde aurait pu ne pas être, qu'il aurait pu y avoir le néant. Mais vous imaginez qu'en disant cela, on entre dans un très grand nombre de perplexités métaphysiques, parce qu'en disant qu'il y aurait pu avoir le néant à la place du monde, on dit que le néant pourrait être. Et le néant étant le contraire de l'être, on voit mal comment le néant peut être. Alors on ne va pas rentrer dans ces polémiques métaphysiques, mais vous savez que le concept de néant n'est pas accepté par tous les philosophes. Hein, loin de là, il y a beaucoup de philosophes qui se sont méfiés énormément de la notion de néant. Alors tout cela pour dire qu'il est très difficile de parler de l'univers. Et un des stratagèmes que les philosophes et les poètes ont trouvé, comme lorsqu'il est difficile de parler de quelque chose, par exemple du temps. Vous savez que quand on a commencé à parler du temps, on a parlé du fleuve, chez Héraclite, chez d'autres, parce qu'il est difficile de dire ce que c'est que le temps. Bien, une des manières de parler de l'univers, c'est d'avoir recours à une métaphore. Et évidemment, en parler comme d'un objet. Il n'est pas un objet, mais on en parle comme d'un objet. Et un des objets les plus appropriés, évidemment, c'est le labyrinthe. Parce que le labyrinthe est à la fois fini, comme je l'ai dit, mais il est en quelque sorte infini. Or, aujourd'hui, du moins, nous faisons l'expérience du monde comme d'un monde infini, sans commencement ni fin. Donc, parler de l'univers comme un labyrinthe, cela peut être pensé comme une manière d'approcher ce qu'est l'univers, même si c'est difficile à dire. Alors on comprend donc que Borges ait recours à la métaphore du labyrinthe. Alors j'insiste beaucoup sur le fait que c'est une métaphore, c'est-à-dire que le monde n'est pas un labyrinthe réel. Parce qu'un labyrinthe est dans le monde, c'est un objet dans le monde, on peut y entrer en venant de l'extérieur, et on peut en sortir, même si c'est difficile, mais on finit quand même par en sortir. Donc le monde est comme un labyrinthe, cela veut dire que le monde n'est pas un labyrinthe réel, on ne peut pas entrer dans le monde. Ça nous arrive métaphoriquement hein, de dire que quand un enfant naît, il vient au monde. Enfin, on sait bien qu'il ne vient pas de l'extérieur du monde. Hein. Quand quelqu'un meurt, nous disons qu'il a quitté ce monde, mais sauf dans une perspective religieuse, peut-être un peu naïve, ça ne signifie pas qu'il est parti loin de ce monde. Et donc Borges a une très forte conscience de ce qui est commun à toutes les métaphores, il le répète souvent, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois adéquates, parlantes, elles nous disent quelque chose de l'univers, et en même temps inadéquates, puisque le monde n'est pas un labyrinthe, mais il est comme un labyrinthe. Et c'est pourquoi Borges, dans d'autres textes, pas dans celui-ci, raffine un peu la métaphore. Hein. Par exemple, il dit que le monde est comme un labyrinthe, mais que c'est un labyrinthe sans extérieur. Alors, un labyrinthe sans extérieur, c'est un peu déjà étrange. Ou alors il dit, c'est un endroit, mais sans envers. Et là, l'imagination commence un peu à être saisie de vertige, hein, parce que dans le monde, à tout endroit correspond un envers. Si je vous disais, par exemple, que cette feuille de papier a un recto, mais pas de verso, vous seriez un petit peu inquiet. Donc, voilà ce que fait Borges. Hein. Il essaie de parler de l'univers. Il essaie de parler de l'univers à travers une métaphore, hein, adéquate et inadéquate à la fois, comme la métaphore du temps, comme un fleuve. On sait bien que le temps n'est pas un fleuve, hein, ne serait-ce que parce qu'il n'a pas de source, vu qu'il n'a pas d'embouchure, etc. Alors, je voudrais terminer par ce premier volet en ajoutant deux remarques supplémentaires hein, qui nous serviront pour la réponse aux deux autres questions que j'ai posées. La première remarque que je voudrais faire pour terminer, c'est que, comme vous l'avez vu dans le texte, hein, Borges dit à un certain moment que lors des pérégrinations du poète et de l'empereur dans le palais labyrinthique, le réel se confondait avec le songe. Le réel n'était qu'une des formes du songe. C'est pas tout à fait la même traduction, mais ça revient au même. Et effectivement, si on lit attentivement la parabole du palais, on s'aperçoit en effet que plus le poète et l'empereur s'éloignent du centre du palais, puis des jardins ou paradis qui entourent le palais, plus ils accèdent à une zone étrange, barbare, avec des rites absurdes, sacrifice d'une tortue, vous avez vu, hein, des apparitions inquiétantes, un homme de pierre, des atrocités diverses, une décapitation, des fuites à l'infini, une gradation insensible des couleurs, et aux confins, hein, le réel se confond avec le songe, et il n'est qu'une forme du songe. Le labyrinthe, donc, de Borges a clairement un centre, voilà ce que je voudrais préciser, hein, moins inquiétant, au début on y joue, il condescend à jouer, hein, et des confins de plus en plus inquiétants, et plus on s'éloigne du centre, hein, plus on va vers le rêve et le cauchemar. On remarquera que l'île de Pascal, d'une certaine manière, mais de manière beaucoup plus simple, a un peu la même structure, c'est-à-dire qu'il y a l'île, et puis il y a l'océan infini autour, hein, voilà. La deuxième remarque que je voudrais faire avant de terminer ce premier volet, pour comprendre cette phrase, suppose la lecture d'autres textes de Borges. Certains d'entre vous ont peut-être lu Borges, et il y a chez Borges l'idée que le labyrinthe n'est pas seulement extérieur, mais qu'il y a aussi une sorte de labyrinthe intérieur. Et une des formes de ce labyrinthe, chez Borges, c'est le cauchemar. C'est vrai que dans le cauchemar, on a l'impression qu'on n'en sort jamais. C'est un labyrinthe mental, en quelque sorte. Mais c'est pas seulement le cauchemar, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup retenu l'attention de Borges. C'est ce qui se passe au moment où nous nous endormons. Au moment où nous nous endormons, la conscience se ferme progressivement. Elle tend vers zéro, mais elle n'est pas à zéro, sinon vous dormiriez. Et à ce moment-là, bien, il y a un chaos des sensations, les idées s'associent selon des lois étranges qui ne sont plus les lois logiques, hein, et en quelque sorte, la raison cède la place au chaos des impressions ou au cauchemar. Hein. Voilà donc la deuxième remarque que je voulais faire pour montrer, pour éclairer l'allusion au songe, on y reviendra tout à l'heure. Je résume tout ce que je viens de dire. À l'aide de ces deux remarques, je crois que nous pouvons compléter donc l'image du monde qui est dans cette parabole. Notre monde est comme un labyrinthe, mais sans extérieur, avec un centre relativement ordonné, le palais au centre, la civilisation, le réel, vous l'avez vu, et puis des confins qui fuient vers l'infini. Il y a d'abord les jardins, puis après la barbarie, le songe, et cela vaut du monde extérieur comme du monde intérieur pour Borges, c'est-à-dire que la raison, notre raison, et le principe d'ordre, est bordé par le désordre, est bordé par le rêve, le cauchemar, le chaos de l'endormissement. Voilà pour commencer, pourquoi cette métaphore de l'univers. La deuxième, bien évidemment, la deuxième question que je vais poser, c'est le poète. Pourquoi y a-t-il un habitant dans cet univers qui veut dire la parole qui résume, ou le mot qui résume l'univers? Donc, je rappelle ce que vous avez entendu, hein. Borges nous dit, vers le milieu du récit, qu'au pied de l'avant-dernière tour, le poète récita une brève composition dont le texte s'est perdu, qui lui apporta à la fois l'immortalité et la mort. Et cette brève composition, c'est la palabra del universo, hein, une parole ou un mot qui contient le palais présent et passé dans sa totalité et dans tous ses détails. En espagnol, entero y minucioso, hein, dans les moindres détails. Et ceux qui connaissent Borges savent que cette fiction chez Borges, on la retrouve partout, par exemple dans un conte qui est devenu très célèbre, qui s'appelle L'Aleph. Et dans L'Aleph, c'est un vieux sage qui habite dans une vieille maison un peu délabrée, et puis sous l'escalier, en allant vers la cave, on découvre qu'il y a un Aleph. Un Aleph, c'est un point où, quand on regarde sur le point, on voit tout l'univers. Absolument tout l'univers, passé, présent, à venir, dans ses moindres détails, il y a absolument tout l'univers. Alors vous imaginez qu'il y a aussi la maison où vit le poète, et il y a aussi celui qui est en train de regarder l'Aleph dans ce point. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ambition de dire tout l'univers? Bien, je crois qu'il faut prendre Borges à la lettre. Hein. Bien écouter ce qu'il dit. Il dit, si le poète décrit tout ce qu'il y a dans le palais, absolument tout, hein, il décrit donc en même temps lui-même, parce qu'il est dans le palais. Et il décrit en même temps son acte par lequel il est en train de décrire le palais. Cet acte est aussi dans l'univers. Et cela nous conduit bien évidemment, vous l'imaginez, à ce que les logiciens et les philosophes appellent une régression à l'infini. Cette régression infinie, je voudrais l'illustrer de manière très très simple. Si je dis par exemple « je vois quelque chose », il y a un « je » qui voit, et puis il y a ce qui est vu. Mais comme la conscience de quelque chose, c'est en même temps une conscience de soi, je peux dire que j'ai aussi conscience de moi en tant que je vois. C'est facile, donc je dirais « je me vois en train de voir quelque chose ». Mais vous remarquez bien que le « je » a reculé d'un degré. Le « je » est devenu un objet, sous la forme d'un complément d'objet, « je me vois », mais il y a toujours un « je » qui est en dehors. Pas grave, je peux continuer, mais je peux continuer à l'infini, je peux dire « je me vois », me voyant, en train de voir que je vois quelque chose. Mais il y a toujours une dualité. Le « je », Sartre, dans un texte célèbre, dit « le « je » recule à l'infini ». C'est un peu le problème de Narcisse. Vous savez que Narcisse est fasciné, hein, par le fait qu'il se voit. Il y a un « je » et un « moi », et il voudrait que les deux coïncident. Donc il va faire en sorte de se rapprocher jusqu'à la mort. Il va tomber dans l'eau, vous connaissez ce texte-là. Revenons au poète. Vous pourriez penser que le projet du poète est un peu fou. Mais les philosophes ont, depuis très longtemps, fait remarquer que c'est un projet très commun. Et pour l'exposer plus simplement, je crois qu'on peut le comprendre de la manière suivante, hein, notre situation face au monde, elle est très curieuse. Elle n'est pas la même que celle face à un objet. Quand je suis face à un objet, je ne suis pas dans l'objet, bien évidemment. Par contre, quand je suis face au monde, je suis aussi dans le monde. Pascal l'a dit d'une manière tout à fait remarquable, hein, dans le célèbre fragment trop connu sur le roseau pensant. Mais il dit « En tant que je suis pensant, j'embrasse l'univers. En tant que je suis un roseau, un simple corps fragile, c'est l'univers qui m'embrasse. Je suis face à l'univers, mais je suis en même temps dans l'univers. » Et il dit « L'univers m'engloutit comme un point. » Et cette situation a toujours fait naître chez les hommes le rêve d'être à l'extérieur du monde pour voir le monde de l'extérieur. Donc aussi pour se voir de l'extérieur en train de voir le monde. Les philosophes grecs ont inventé un mot pour ça. Ils ont dit « L'homme cherche à être un cosmothéoros », c'est-à-dire celui qui contemple l'univers comme un tout. Hein. Aussi bien, je pourrais citer Platon, Wittgenstein, par exemple, hein, les philosophes ont forgé de nombreuses fictions pour faire comprendre ce désir métaphysique, hein, de sortir de l'univers, en quelque sorte, pour voir l'univers de l'extérieur et pour se voir dans l'univers. Hein. Par exemple, Platon dans le Charmide, ou Wittgenstein dans le Tractatus Logico-Philosophicus, ils inventent une fiction tout à fait étonnante. Ils inventent l'idée d'un œil qui verrait non pas seulement les objets qu'il voit, non pas seulement son champ visuel, qui a un centre d'ailleurs et des confins, hein, mais qui se verrait lui-même. Imaginez un petit peu, ne le faites pas l'exercice parce que vous pourriez vous faire mal, mais imaginez un petit peu un œil qui se retourne sur lui-même pour se voir. Vous comprendrez bien que c'est une opération radicalement impossible, et c'est ce que ne va pas réussir à faire le poète. Ce matin, en visitant la magnifique exposition à l'Ermitage, à la Fondation de l'Ermitage, la magnifique exposition Signac, j'ai repensé à une autre métaphore qu'on trouve chez Plotin ou chez d'autres, c'est l'idée de voir la lumière. À proprement parler, on ne peut pas voir la lumière. La lumière, c'est ce qui permet de voir. Donc on peut voir que des objets lumineux, que des objets illuminés, mais la lumière elle-même, c'est ce qui rend possible la vision. Signac, dans plusieurs de ses tableaux, et il le dit et surtout il fait voir la lumière. C'est tout à fait impressionnant, il fait voir en quelque sorte l'univers comme lumière. Il y a un magnifique tableau, il y en a peut-être qui ont vu cette exposition, il y a un magnifique tableau au premier étage qui s'intitule Saint-Tropez après l'orage, où on voit tout l'univers comme une sorte de lumière, et puis qui se concrétise en quelques petits objets là qui sont dans la lumière. Hein. Dans Signac, chez les impressionnistes, il y a quelquefois aussi cette idée, hein, de représenter tout l'univers, là de le représenter comme une lumière d'ailleurs. Hein. Signac, dans le petit film qui accompagne là, au dernier étage, en haut, il dit « Quand j'ai peint cela, je nageais dans la joie ». C'est-à-dire que là aussi, il y a un lien entre la représentation de l'univers et un sentiment qui, dans ce cas, n'est pas l'effroi, mais qui est plutôt la joie. Alors, je reviens à notre poète. Il a donc tenté de dire l'univers dans sa totalité. Et très logiquement, Borges nous dit que s'il a réussi, alors il a été mis à mort par l'empereur. Et vous comprenez pas facilement pourquoi, parce que si le poète a réussi à représenter la totalité du palais, lui-même compris, hein, dans le palais, il a réussi à voir le palais de l'extérieur, il a réussi à voir l'univers de l'extérieur, donc il a réussi à être un cosmothéoros, en d'autres termes, il n'est plus un humain, il a pris la place de Dieu. Parce que c'est Dieu, dans la théologie, qui voit l'univers de l'extérieur. C'est le seul qui peut être à l'extérieur de l'univers, puisqu'il en est le créateur. Donc, le propriétaire du palais met à mort le poète. Autre version, hein, proche. Donc la première, c'est que l'empereur le met à mort car son ambition est insensée. Hein, c'est l'ambition de devenir Dieu. Et le deuxième, c'est que comme il n'y a pas deux choses identiques dans l'univers, c'est ce qu'on appelle le principe des indiscernables de Leibniz. Hein, c'est Leibniz qui l'a formulé. Comme il n'y a pas deux choses identiques, si on crée un second univers, en quelque sorte, hein, qui contient exactement tout ce que contient le premier, ben, ça fait disparaître le premier. Le poème, en quelque sorte, a remplacé l'univers. Mais, nous dit Borjas, ces deux versions ne sont que des fictions littéraires. Ce ne sont que des fictions littéraires, puisque la réalité, c'est que le poète n'est pas sorti de l'univers. Il était esclave de l'empereur et mourut comme tel. Et donc, ça veut dire qu'il n'est pas rentré dans l'univers, que nous ne rentrons pas dans l'univers, mais que nous ne pouvons pas non plus en sortir, sauf sur un mode fantasmatique, hein, si nous nous imaginons en quelque sorte hors univers. Hein. Et ce que nous dit Borges, hein, c'est que, évidemment, ce désir qu'on peut appeler désir métaphysique, hein, de sortir de l'univers, est un désir humain, bien humain, trop humain peut-être, hein, mais un désir complètement insensé. Et que le poème, en particulier, l'œuvre d'art, hein, ne représente jamais qu'un petit fragment du monde, mais non le monde dans sa totalité. Hein. Et l'homme reste définitivement un être dans le monde, c'est-à-dire une créature qui ne pourra jamais sortir du monde. Et donc Borges, vous le voyez, récuse à la fois la prétention, j'allais dire la prétention métaphysique, mais c'est plutôt la prétention d'une certaine métaphysique, hein, et puis la prétention d'une certaine conception de la littérature, et une conception de la littérature qu'il a bien exprimée dans trois lignes que je vous lis en français. C'est à propos d'un texte d'un écrivain du XVIIIe siècle. Il dit « Les hauts et superbes volumes qui formaient dans l'ombre de la pièce une pénombre dorée n'étaient pas, comme sa vanité le rêva, un miroir du monde, mais une chose de plus ajoutée au monde. » Tous ceux qui ont écrit des livres connaissent cette expérience-là qui nous ramène à la modestie. Hein. C'est-à-dire que vous écrivez un livre, si vous écrivez un livre de philosophie ou d'autres choses, vous avez l'impression de saisir tout l'univers. Hein. Vous avez l'impression que vraiment la vérité, elle est là. Et puis un jour, vous visitez une librairie, puis vous voyez au bas vous voyez votre livre au milieu d'une millier de livres et vous êtes ramené à ce que vous êtes, c'est-à-dire une chose de plus dans le monde et non pas un miroir du monde. Je terminerai par la troisième question, ce sont les sentiments du monde. Les sentiments du monde, j'ai fait allusion donc tout à l'heure aux sentiments du poète en parcourant le labyrinthe. Bien d'abord, il y a une sorte de gaieté. Le labyrinthe semble un jeu. Puis un début d'inquiétude. Puis le sentiment d'être perdu, et Borges nous dit bien qu'il l'accompagna jusqu'à la fin. On verra que c'est important. Donc il y a une constante chez Borges, hein, et la même que chez Pascal, c'est l'idée que, selon laquelle la condition humaine ne peut pas être comprise rationnellement, hein, puisque nous ne pouvons pas sortir du labyrinthe pour savoir où nous sommes, hein, nous ne pouvons pas voir l'univers de l'extérieur et nous voir de l'extérieur. Et il y a l'idée fondamentale que notre existence ne peut être que sentie dans un ensemble d'affects, de sentiments, hein, dont les philosophes ont parlé bien avant Borges. Hein. Je rappelle par exemple que les philosophes grecs disaient que la philosophie commence avec l'étonnement. Mais c'est pas seulement l'étonnement, hein. Ça peut être l'ennui. Chez Hamlet, par exemple, de Shakespeare, hein, il y a un ennui, une mélancolie profonde devant le monde. Mais ça peut être la joie. Chez les mystiques, tout à l'heure j'ai parlé de Signac, mais ça peut être les mystiques, il y en a un... Je me souviens d'un poème d'un mystique allemand qui s'appelle Martinus von Biberach, qui est du fin 15e, début 16e, quelque chose comme ça. Il y a un poème tout à fait étonnant, hein, de von Biberach, qui dit, je cite, hein, vraiment, il dit « Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas d'où je viens ». Je vais mourir, je ne sais pas où je vais. Alors qu'on pourrait attendre une conclusion un peu nihiliste et désespérée en disant tout est absurde, il dit « Mich wundert, dass ich fröhlich bin ». Je m'étonne d'être aussi joyeux, en quelque sorte. Hein. Voilà une expérience de joie. Mais ça peut être aussi l'horreur d'exister, par exemple, chez Schopenhauer, hein, ou chez d'autres. Hein. Donc le monde a toujours fait naître des sentiments. Alors ce qu'il y a, je terminerai par là, ce qu'il y a de... Ça n'est pas particulièrement nouveau, hein, chez Borges, mais ce qu'il y a d'important chez Borges, c'est d'abord l'affirmation, hein, que il y a un lien très étroit entre prendre conscience de ce qu'est le monde, de l'univers, dans une métaphore, hein, et puis le fait de sentir le monde. Ce qui veut dire que, comme Pascal, hein, sans être un penseur religieux, hein, il estime qu'il n'y a pas de connaissance rationnelle de notre condition. Vous savez que chez Pascal, il n'y a pas, par exemple, de preuve de l'existence de Dieu. Il y a bien un argument assez célèbre, mais pour les libertins, qui s'appelle l'argument du pari, mais qui est secondaire, hein, chez Pascal. Mais il n'y a pas de preuve rationnelle de l'existence de Dieu, il n'y a pas de métaphysique à proprement parler, il n'y a pas de connaissance de notre condition, il n'y a qu'une conscience de celle-ci. Et une conscience par des sentiments, et des sentiments, et c'est par là que je voudrais terminer, qui sont multiples. Et c'est là que la fiction de Borges est beaucoup plus complexe que celle de Pascal. Parce que celle de Pascal, vous avez vu, c'est l'effroi. Face à ces espaces infinis m'effraient, dit Pascal dans un texte très célèbre. Par contre, il y a de nombreux sentiments, hein, chez Borges. Hein, et on peut le comprendre si on se souvient de ce que j'ai dit du centre et des confins du monde. Le centre, c'est souvent pour nous... Hein, le monde familier, en allemand on dit ça, l'Umwelt, le monde environnant familier, le lieu où nous faisons face aux êtres et aux choses aimées. Hein. Même si parfois une bombe éclate dans ce monde bien rationnel et bien civilisé, hein, qui nous rappelle qu'aux confins du monde, l'horreur existe aussi, qu'il y a des guerres civiles, qu'il y a de pauvres humains qui essaient de gagner le centre pour trouver un peu de sécurité. Hein. Mais chez Borges, plus nous nous éloignons donc vers les confins, moins l'univers est humain. Donc ces confins, pour Borges, ils sont à la fois géographiques, le désert, la banquise, ils sont cosmologiques, le lointain infini des galaxies, ils sont culturels, la barbarie, on le voit bien dans le conte, hein, loin de toute civilisation, mais aussi, comme on l'a vu, hein, ce sont des confins à l'intérieur de nous. Notre raison est bordée par le cauchemar, par le chaos des impressions avant l'endormissement. Et j'ai essayé de montrer, je terminerai par là, dans ce livre que j'ai écrit il y a bien longtemps, en 90, j'ai essayé de montrer qu'il y avait 6 sentiments fondamentaux du monde chez Borges. Et ces 6 sentiments, je vais vous en parler un tout petit peu et vous lire un poème où ils sont presque tous présents. Ces 6 sentiments, c'est les suivants. Pour les comprendre, partons de ce que j'ai dit de l'endormissement. Vous vous endormez et puis la conscience tend vers zéro. Hein. Et puis, le monde est en train de se dissoudre. Hein. Et cela peut faire naître un sentiment d'horreur. Premier sentiment, perte de soi, perte de la réalité. C'est pourquoi, entre parenthèses, certains d'entre nous vivent, pas tous, mais l'endormissement dans une certaine crainte, hein, comme un dessaisissement, une perte de soi. Mais en même temps, dit Borges, en même temps, c'est un peu la fascination de Narcisse, vous vous souvenez, pour réduire la dualité. En même temps, vous pouvez avoir l'impression d'un certain émerveillement. C'est-à-dire que vous êtes sur le point presque de sortir de ce monde de la représentation, d'un monde qui est en face de vous, et vous allez peut-être accéder à autre chose. Donc horreur, émerveillement. Mais quand vous revenez à la veille, quand vous vous réveillez, et vous avez 2 autres sentiments, par rapport à l'horreur, par contraste, vous avez le soulagement que tout le monde connaît. Ça n'était qu'un cauchemar. Voilà. Et puis vous retrouvez le monde des choses aimées, les choses simples qui sont autour de vous, votre entourage, et tout cela, c'était du cauchemar. Donc, 3e sentiment, c'est ce qu'il appelle le retour au monde amical. Il dit, vous faites retour au monde des choses aimées. Mais comme en même temps, l'extinction de la conscience, c'était, vous en souvenez, l'émerveillement, et ça peut être en même temps l'ennui. Vous revenez à la banalité quotidienne. Quatrième sentiment, hein, l'ennui. Il en ajoute 2 autres. Il en ajoute 2 autres parce que jusqu'ici, les deux derniers sentiments que j'ai décrits étaient par contraste avec les précédents. Mais on peut imaginer aussi par continuité. C'est-à-dire que vous vous réveillez, enfin vous n'êtes plus dans l'horreur, vous êtes dans le soulagement du retour au monde amical, mais il y a encore la trace de l'horreur. Cette trace de l'horreur, on la verra dans le poème de tout à l'heure, il l'appelle l'effroi. Il y a encore un reste, de quelque chose du cauchemar qui vient là contaminer en quelque sorte votre soulagement. Et inversement, il peut y avoir encore une trace de l'émerveillement, cette fois par continuité. Donc vous vous réveillez, l'émerveillement disparaît pour laisser la place à l'ennui, mais en même temps l'ennui est contaminé. Alors il appelle cela, je ne peux pas en parler très, très longuement, il appelle le sentiment de l'existence comme un don. Vous avez l'impression qu'il reste quelque chose comme une trace de... C'est peut-être ça à quoi faisait allusion Pascal quand il disait qu'il aurait laissé quelques traces de soi, etc. Ça nous fait six sentiments, hein. Horreur, émerveillement, retour au monde amical, ennui, effroi et sentiment de l'existence comme un don. C'est ce que fait Borges dans son œuvre, c'est d'explorer systématiquement ces six sentiments du monde pour montrer que nous n'avons pas de connaissance rationnelle de notre condition, mais que nous les vivons, que nous vivons notre condition, notre présence à et dans l'univers à travers toute une gamme de sentiments. Et je voudrais, pour terminer, vous lire un poème. C'est à mon avis un des plus beaux, c'est pour ça que je l'ai choisi, et puis vous verrez aussi pour une autre raison, qui s'appelle, un poème de Borges qui s'appelle Alexander Selkirk. J'imagine que personne ne sait ici, sauf si vous êtes très savant en littérature anglaise, qui est Alexander Selkirk. Moi, je ne le savais pas. Il est pourtant universellement connu, Alexander Selkirk, puisque Alexander Selkirk, eh bien, c'est tout simplement ce marin anglais qui est resté 5 ans sur une île déserte. Vous comprenez pourquoi j'ai commencé par Pascal. Et qui a inspiré Daniel Defoe dans son célèbre roman Robinson Crusoe. Donc, c'est un poème, en réalité, sur Robinson Crusoe, ou plutôt sur Alexander Selkirk, quand il est revenu en Angleterre, plus exactement en Écosse, mais pour la rime, et puis ça allait mieux de dire Angleterre dans le poème. Donc, je vous lis le poème Selkirk, donc... revient de son île après un cauchemar de 5 ans, hein, et voilà ce qu'il écrit. La traduction est de moi, sur un point elle est un petit peu, je vais la lire en espagnol après, sur un point je n'ai pas trouvé l'équivalent de l'espagnol. Essayez de repérer les sentiments dont j'ai parlé, les six sentiments. Je rêve que la mer là-bas m'encercle encore, et du rêve me sauve les cloches de Dieu, elles qui sanctifient les matins de nos campagnes paisibles d'Angleterre. 5 années durant, mes yeux ont souffert un monde éternel de solitude et d'infini, qui n'est plus aujourd'hui que cette histoire qui maintenant m'obsède et que je vais répétant dans les tavernes. Dieu m'a rendu au monde des hommes, au miroir, aux portes, aux nombres et aux noms. Je ne suis plus maintenant celui qui, éternellement, regardait la mer et ses profondes steppes. Et comment ferais-je pour que cet autre sache que je suis ici, sauvé, parmi les miens ? En espagnol, le texte est magnifique en espagnol, ma traduction est un pauvre équivalent. En espagnol, ça dit cela avec un mot que je n'ai pas réussi à traduire. « Sueño que el mar ». El mar aquel me encierra y del sueño me salvan las campanas de Dios que santifican las mañanas de estos íntimos campos de Inglaterra. L'espagnol dit « intimos campos », des campagnes intimes. En français, ça ne va pas. Campagne intime, donc j'ai traduit par campagne paisible. C'est un peu une sous-traduction. « 5 años padecí mirando eternas cosas de soledad e infinito. Que ahora son esa historia que repito ya como una obsesión en las tabernas. Dios me ha devuelto al mundo de los hombres, a espejos, puertas, números y nombres. Y ya no soy aquel que eternamente miraba al mar y su profunda estepa. ¿Y cómo haré para que ese otro sepa que estoy aquí, salvado, entre mi gente, entre mes gens, c'est-à-dire parmi les miens. Et donc j'ai parlé tout à l'heure de 6 sentiments, il y en a au moins 5. Hein. Il y a d'abord l'horreur des confins. 5 années durant, mes yeux ont souffert un monde éternel de solitude et d'infini. Et puis il y a le soulagement du retour au monde des hommes, nos campagnes paisibles d'Angleterre. Et puis le magnifique dernier vers, je suis ici, sauvés parmi les miens. Et puis il y a l'obsession de l'horreur qui demeure. Vous vous souvenez que le poète jamais n'oubliera l'inquiétude. Il dit un monde éternel de solitude et d'infini qui maintenant m'obsède. Et puis il y a peut-être aussi l'émerveillement qui semble pointer, hein, comme si Robinson avait peut-être la nostalgie de l'île, hein, qu'une partie de lui-même était restée là-bas, celui qui regardait la mer, ses profondes steppes. Et puis il y a peut-être aussi l'ennui du retour au monde des hommes, hein, je vais répétant dans les tavernes, etc. Je terminerai par une conclusion, hein, par quelques citations de Borges qui disent clairement ce qu'est pour lui la poésie et la littérature en général, c'est-à-dire un élan pour penser la condition humaine, sans la connaître, c'est-à-dire pour la sentir. Et je crois qu'il le dit explicitement, hein, il écrit ceci: « Le monde est pour moi une source inépuisable de, et notez bien les différents sentiments, de surprise, de perplexité, de malheur aussi, et quelquefois, pourquoi mentirais-je, de bonheur. » Mais je n'ai aucune théorie du monde. Attention, il n'est pas contre la science, hein, ce n'est pas une déclaration d'irrationalisme scientifique, hein, pas du tout. Hein. Il parle de la connaissance de la condition humaine. Maintenant, si je devais me définir, je dirais que je suis un agnostique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas en la possibilité de la connaissance. Il n'y a aucune raison pour qu'un homme cultivé de ce siècle ou de tout autre puisse comprendre Abarcar, hein, puisse comprendre l'univers. Deuxième citation plus courte. Hudson raconte qu'il entreprit souvent, au cours de son existence, l'étude de la métaphysique, mais que le bonheur l'interrompit toujours. La phrase, une des plus mémorables que le commerce des lettres m'ait donné à connaître, etc. Et puis une troisième citation encore plus courte. Les œuvres littéraires sont toutes une métaphore de sentiments. Il lie étroitement métaphore et sentiment, ce que j'ai essayé de faire comprendre, en quelque sorte, hein, en nous faisant sentir l'univers, hein, comme un très étrange labyrinthe. Un labyrinthe sans envers, mais il nous fait sentir en même temps toute une série de sentiments. Voilà pourquoi il emploie cette expression, une métaphore de sentiments. Alors reste une dernière question, mais que je n'aborderai pas, hein, parce que elle est à elle seule, elle mériterait toute une heure de plus. Qu'est-ce qui distingue le poète du philosophe? C'est-à-dire ces deux êtres, hein, dont le poète allemand Hölderlin disait, vous connaissez peut-être la très belle image, il disait qu'ils sont très proches, hein, aussi proches que deux hommes sur deux pics, très proches, mais séparés par un abîme. Ce qui veut dire que pour lui, la philosophie et la poésie n'étaient pas la même chose. Hein. Donc qu'est-ce qui les distingue tous les deux? Et je crois que la seule réponse que je donnerai ici, c'est que quand il s'agit de grands poètes, comme Borges, ou de grands philosophes, je citais Wittgenstein, on aurait pu parler de Heidegger, etc., je crois qu'il faut vite oublier un peu les catégories préconstituées, toutes faites, hein, philosophie, science, poésie, etc., qui sont quand même assez souvent, hein, des étiquettes commodes qui ont été faites pour faciliter la vie des bibliothécaires, et puis pour celle des présidents d'université. Hein. C'est pourquoi la philosophie, entre parenthèses, on ne sait jamais où la mettre. Hein. Est-ce qu'elle fait partie des sciences humaines, tous les présidents d'université rencontrent ce problème. Alors, je crois qu'il ne faut pas trop vite le ranger dans la philosophie ou la poésie. En tout cas, quand on lui demande, Borges, s'il est philosophe, voilà ce qu'il répond. Il donne trois petites réponses et elles ne sont qu'apparemment contradictoires. Je crois qu'elles sont très intéressantes. Il dit, 1. La métaphysique est l'unique justification de tous les thèmes de mon œuvre. Donc c'est une poésie métaphysique, au sens où elle parle de la présence de l'homme à et dans l'univers. Exactement comme l'Odyssée d'Homère est un poème métaphysique, hein, puisqu'on sait très bien que l'Odyssée, ben, c'est le statut de l'homme qui erre jusqu'à retrouver son île. Hein, voilà. Deuxièmement, il fait toujours état de son scepticisme à l'égard de ce qu'il appelle les aventureuses coordinations de mots de la métaphysique. C'est logique, hein. S'il n'y a pas de connaissance rationnelle de ce qu'est l'homme dans l'univers, la métaphysique est un ensemble d'aventureuses coordinations de mots. Quelquefois, il est moins tendre, il dit la métaphysique, c'est une branche de la littérature fantastique. Voilà. Vous connaissez peut-être la formule. Et puis, troisièmement, et c'est peut-être le plus important, hein, il affirme constamment le rapport de la poésie à la vérité. C'est pas seulement une affaire de plaisir, la poésie, la littérature ou la peinture de Signac. Bien sûr que c'est aussi du plaisir, hein. Mais c'est aussi quelque chose qui porte une vérité. Il dit ceci, je m'exprime au moyen de symboles au travers desquels je prends conscience de certaines vérités. La poésie est essentiellement vraie. Et c'est ce qu'il conduit quelquefois à dire, quand il en a assez de l'intervieweur, hein, il conduit à dire, je vois pas de différence essentielle entre la philosophie et la poésie. Alors j'ai écrit plusieurs livres pour dire que je vois une différence entre la philosophie et la poésie, mais je crois qu'on pourrait réserver ça à éventuellement une prochaine conférence. Voilà, je vous remercie vivement de votre attention. Je sais que c'est un texte court, mais difficile, dense, ce texte de Borges, et peut-être que j'ai rajouté de la perplexité à la perplexité, de la complexité à la complexité en voulant l'éclaircir, ou trop l'éclaircir, ou pas assez l'éclaircir, mais enfin, le débat est là pour qu'on en discute.
Ce jour-là, l'empereur Jaune fit visiter son palais aux poètes. Ils laissèrent derrière eux, en vaste perspective, les premières terrasses occidentales qui, tels les gradins d'un amphithéâtre presque illimité, descendaient doucement vers un paradis ou un jardin dont les miroirs de métal et le réseau des ais de genévrier préfiguraient déjà le labyrinthe. Au début, ils s'y perdirent avec plaisir, comme s'ils s'abandonnaient à un jeu. Ensuite, non sans inquiétude, parce que les avenues rectilignes étaient affectées d'une courbure insensible, quoique continue, en sorte qu'elles étaient secrètement circulaires. Vers minuit, l'observation des planètes et l'opportun sacrifice d'une tortue permirent aux promeneurs de se délivrer d'une région qui paraissait ensorcelée, mais non du sentiment d'être égaré qui les accompagna jusqu'à la fin. Ils parcoururent des antichambres, des cours, des bibliothèques, une salle hexagonale avec un clepsydre, et un matin, ils aperçurent du haut d'une tour un homme de pierre qu'ils ne revirent plus jamais. Ils traversèrent, dans les barques de Boitzenthal, de nombreux fleuves resplendissants, ou nombre de fois un même fleuve. Le cortège impérial passait et les gens se prosternaient, mais un jour, ils abordèrent dans une île où un homme ne se prosterna pas parce qu'il n'avait jamais vu le Fils de Dieu, le Fils du ciel, et le bourreau dut le décapiter. Leurs yeux virent avec indifférence des noires chevelures, des danses noires, des masques d'or compliqués. La réalité se confondait avec le rêve, ou mieux dit, le réel était une des configurations du rêve. Il paraissait impossible que la terre fût autre chose que jardin, eau, architecture et forme de la splendeur. Tous les 100 pas, une tour coupait le ciel. Pour les yeux, leurs couleurs étaient identiques, mais la première de toutes était jaune et la dernière écarlate, tant la gradation était délicate et longue la série. C'est au pied de l'avant-dernière tour que le poète, qui demeurait comme étranger au spectacle qui émerveillait les autres, récita la brève composition qui est aujourd'hui indissolublement liée à son nom et qui, comme le répètent les historiens les plus subtils, lui octroya en même temps l'immortalité et la mort. Le texte en est perdu. D'aucuns prétendent qu'il se composait d'un seul vers, d'autres d'un seul mot. Ce qui est certain et incroyable, c'est que le poème contenait la minutieuse totalité de l'immense palais, avec tous ses célèbres porcelaines, chaque dessin de chaque porcelaine, les ombres et les lumières des crépuscules, et chaque instant malheureux ou heureux des glorieuses dynasties de mortels, de dieux et de dragons qui vécurent depuis l'interminable passé. Les assistants se turent, mais l'empereur s'écria « Tu m'as ravi mon palais !» Et l'épée de fer du bourreau faucha la vie du poète. D'autres racontent l'histoire autrement. Dans le monde, il ne saurait y avoir deux choses égales. Il a suffi, disent-ils, que le poète prononce le poème pour que le palais disparaisse, comme aboli et foudroyé par la dernière syllabe. Il est clair que de semblables légendes ne sont rien d'autre que des fictions littéraires. Le poète était l'esclave de l'empereur et il mourut comme tel. Sa composition tomba dans l'oubli parce qu'elle méritait l'oubli. Ses descendants cherchent encore, mais ne trouveront pas le mot qui résume l'univers.
Alors, si vous avez des questions, il y a un micro.
Oui, alors moi, c'est juste une petite question. Il y a le personnage qui ne reconnaît pas l'empereur, en fait. Il y a un personnage dans le texte qui ne reconnaît pas l'empereur.
Oui. Oui, c'est un problème. C'est un problème de savoir s'il faut et comment on peut interpréter chaque détail d'une telle fiction. Il y a des détails qui sont visiblement clairement significatifs. Comme par exemple la courbure, hein, vous l'avez vu, il n'y a pas de ligne de droite, ce qui est une manière de nous dire que, ben, qu'on est dans un espace qui est à la fois fini et infini, entre parenthèses, comme un peu l'univers qu'on vit, où il y a un horizon, hein, mais on ne peut jamais aller jusqu'à l'horizon. Il y a plusieurs éléments qui peuvent être interprétés. Après, effectivement, il y a d'autres éléments, comme, avant de parler de celui dont vous parlez, comme un homme qui apparaît, qu'on ne reverra plus. Ce qui est peut-être intéressant, c'est le « on ne reverra plus ». Parce que dans le monde rationnel, les événements se répètent. Il y a un déterminisme naturel, hein, les événements sont toujours, tous les événements sont déterminés par les mêmes causes, etc. Là, on est dans un monde d'irrationnel où il y a déjà une aspiration, une apparition fulgurante en quelque sorte. Et puis, il y a ce passage qui a sans doute de multiples significations parce que il y a par exemple la violence qui apparaît progressivement, hein, plus on s'éloigne du centre, hein, plus on a des événements inquiétants et violents. À chacun peut-être de voir sans forcer l'interprétation, hein, parce que le risque c'est évidemment de projeter pourquoi quelqu'un ne reconnaît pas l'empereur. Ça peut être aussi une allusion à ceux qui dans l'histoire n'ont pas reconnu Dieu aussi, hein, et qui quelquefois ont fini sur les bûchers ou décapités ou etc. Voilà, mais c'est une question très importante qui dépasse un peu le simple exemple que vous donnez. Et évidemment, il faut pas céder au délire de l'interprétation. Hein. Délire de l'interprétation, c'est vouloir tout rendre compte. Souvent, les choses dans une fiction de Borges se comprennent aussi par contraste les unes avec les autres. Hein. C'est un peu structural, comme on dit en littérature, hein, c'est-à-dire qu'on comprend un élément par rapport à un autre, hein, et et donc il y a un élément violent qui est aussi, par exemple, à un moment il dit un jardin ou un paradis. Tout près du palais, je crois qu'il dit jardin ou paradis. Jardin ou paradis, bon, on est encore dans l'ordre, etc. Puis il faut aussi qu'il y ait du désordre par rapport à ce paradis, et c'est une des fonctions de cette décapitation. Voilà. Mais d'autres ont peut-être de meilleures explications que la mienne.
Merci pour cette lecture magnifique qui nous replonge dans des textes très fascinants et qu'on oublie parce que, en fait, la marche de la philosophie se fait en excluant les sentiments qu'elle produit et en étant d'une certaine manière aveugle à ses propres effets affectifs. Moi, j'interprète l'empereur de Chine comme une figure du sujet moderne, donc du sujet transcendantal. L'empereur de Chine apparaît avec les Lumières, avec les contes de Voltaire, etc. Il se poursuit avec Marguerite Yourcenar, Huang Fo. Il est l'interlocuteur aussi de la Kaiserliche Botschaft de Kafka. Et l'empereur t'a envoyé un message, mais tu ne le recevras jamais parce qu'il est trop loin de toi. C'est en fait la mise en scène du sujet moderne. Et à ce sujet moderne s'oppose en fait un certain nombre de limites. La dernière tour, c'est celle du sang. Et ces gens qu'on décapite, c'est au fond les ressources du sujet rationnel, qui peut toujours décapiter tout ce qui se présente à lui et qu'il ne connaît pas. Maître et possesseur de la nature, ça veut dire que Foucault accompagne le sujet conceptuel et lui permet de régler les problèmes. Fût-ce par la décapitation de Fermat, il y a aussi cette lisière de barbarie avec ses danses noires, ses cheveux crépus, etc. C'est une sorte d'image à la Paul Morand de la barbarie magie noire, hein. Et un peu extrême dans un certain sens, cannibale, bahiné, etc. Mais je vois au fond une sorte de mise en scène du sujet moderne. Alors, ce qui lui résiste, c'est bien entendu le poète, c'est-à-dire celui qui pourrait dire volerait le monde. Et c'est ce qu'il y a de fascinant en fait dans ce discours, c'est que de toute façon le palais est perdu. Soit il est détruit par le poème, soit en fait il a disparu parce que le poème l'a résumé. Et cet élément-là, c'est la limite du sujet moderne, c'est le langage.
Oui.
C'est quand même, je l'interprète comme ça, j'ai peut-être
oui, pas oui, non, mais d'accord,
buteur, mais je suis globalement, pour moi ça prend ce sens-là.
Je suis globalement d'accord avec vous, oui. Oui, une autre question.
C'est une question très... je ne sais pas, ça m'y a fait penser puisqu'il y a la Chine aussi dans l'histoire. Est-ce que vous connaissez cette fameuse petit extrait de Zhuangzi où il y a... C'est ce philosophe...
Attendez, chinois. Je suis un petit peu dur d'oreille.
D'accord.
Donc, oui.
Et est-ce que vous connaissez ce passage très célèbre de Zhuangzi où il est au bord d'une rivière avec son disciple, il voit un poisson. Et il dit « Ah, j'aimerais bien être comme le poisson qui se glisse dans l'eau et qui a beaucoup de plaisir. » Et le disciple lui dit « Mais Zhuangzi, tu n'es pas un poisson. Comment tu peux savoir ce que le poisson ressent ?» Et Zhuangzi lui répond, lui dit « Mais toi, tu n'es pas Zhuangzi. Comment tu peux savoir que je ne sais pas ce que le poisson ressent ?»
Oui, oui. Si je comprends bien, d'une certaine manière, il y a le rejet dans cette fable, comme un peu chez Borges, une sorte de savoir absolu. Hein, voilà, je crois que c'est quelque chose sur ce conte, c'est un conte sur le savoir absolu et le fantasme du savoir absolu, c'est-à-dire en réalité. Hein, c'est-à-dire en réalité devenir Dieu, hein, parce que par exemple dans la métaphysique de Leibniz, hein, vous savez que dans l'entendement de Dieu pour Leibniz il y a tous les mondes possibles et le monde réel en même temps, mais il y a absolument tout, hein. Donc l'Aleph, ce point qu'on trouve dans la cave d'un vieux sage, hein, c'est comme si le vieux sage avait la prétention d'être Dieu, hein, d'avoir le savoir absolu, et il nous dit ce savoir absolu c'est une vanité, ce savoir absolu vous ne l'aurez jamais. Alors, évidemment, Béa est beaucoup plus physicien que je ne suis. Je ne suis pas du tout. On pourrait dire, nous avons des connaissances cosmologiques qui nous en disent davantage sur l'univers aujourd'hui que même à l'époque. Mais d'une certaine manière, les connaissances que nous avons sont toujours des connaissances dans l'univers. Nous n'atteignons pas, nous n'avons pas de point de vue extérieur sur l'univers. L'idée même d'un commencement de l'univers, un commencement n'a lieu que dans le temps. L'idée d'un commencement du temps, par exemple, est incompréhensible, hein, puisqu'un commencement a lieu dans le temps, de même que la fin du temps. Hein. Je doute qu'on ait une connaissance de l'extérieur de l'univers. Voilà ce que nous dit Borges. Hein. Et du même coup, il redonne au sentiment une dignité que la philosophie classique et le rationalisme classique lui a enlevé. Le sentiment, pendant longtemps, c'était le corps, c'était de l'ordre du privé, c'est la vie des passions, etc. Et là, il est en train de nous dire, hein, qu'il y a des sentiments, en quelque sorte, comme Pascal, hein, des sentiments de l'univers. Des sentiments qui ne sont pas l'amour, la haine, ce ne sont pas des sentiments pour autrui, hein, mais c'est des sentiments face au monde, hein, que nous ne pouvons pas vivre face au monde sans un certain nombre de sentiments, et que c'est toujours à travers des sentiments que nous saisissons le monde. Et là, je crois que, comme l'avait fait Pascal, hein, et d'autres, il y a une prise au sérieux de l'affectivité. Hein. L'affectivité, ce n'est pas seulement un ensemble de phénomènes subjectifs qui ont été traités un peu, sauf par Spinoza ou par d'autres, mais qui ont été traités comme parfaitement secondaires. Hein. C'est la littérature, hein, souvent, la peinture, la musique, qui a donné sa dignité philosophique au sentiment, montrant qu'un sentiment peut traduire une vérité. Peut exprimer une vérité. L'effroi, ben, c'est un sentiment que nous avons tous, ne serait-ce que si vous pensez aux informations cosmologiques là, qui nous viennent de la récente, les ondes gravitationnelles là, de deux trous noirs qui ont fusionné il y a un peu plus d'un milliard d'années. Hein, voilà, nous sommes toujours un peu dans le même univers infini qu'à l'époque de Pascal, hein, et nous n'avons pas le savoir absolu, et nous mourrons sans avoir ce savoir absolu, d'où l'importance de cultiver, d'étudier de près les divers sentiments que nous pouvons avoir. Hein. D'autres l'ont fait, hein. Par exemple, Heidegger a bien distingué, par exemple, la peur, qui est un sentiment, comme il le dit, ontique, c'est-à-dire face à un objet. Si je rencontre un lion dans une rue de Lausanne, c'est pas probable, mais enfin, bon, j'aurais peur. Par contre, l'angoisse, c'est l'angoisse face à l'existence. Hein. C'est l'angoisse de Hamlet, to be or not to be. Hein. C'est là la question, etc. Donc il y a des sentiments comme ça, l'angoisse, l'ennui, les gens qui sont véritablement ennuyés, moi je ne connais pas ce sentiment-là, mais les gens qui sont véritablement ennuyés, ils sont ennuyés par rien de particulier, ils sont ennuyés parce qu'ils existent. Voilà. C'est vraiment ce que Heidegger appelle des sentiments ontologiques, c'est-à-dire qui ont trait à l'être, et non pas à ce qu'il appelle l'étant, ce que j'ai appelé l'objet. Hein. Voilà. Je crois qu'il est nécessaire, pour philosopher, de lire les poètes, de lire les romanciers, de voir de la peinture, voilà, parce que ce sont des manières de nous parler de notre être au monde, sans parler des religions aussi. Voilà.
Tout ce qui vient d'être dit, qui est absolument passionnant sur le rapport entre l'homme et Dieu, l'homme et l'univers, m'ont fait penser à la fable du monde superviel. À un moment donné, il dit qu'il y a Dieu qui parle, puis l'homme parle aussi, mais je crois que c'est Dieu qui dit à l'homme qu'il le crée pour qu'enfin quelqu'un puisse contempler son œuvre. parce que Dieu étant celui d'où tout jaillit, sans arrêt, étant le monde lui-même, il ne peut pas se voir lui-même. Donc, Superviel imagine que Dieu a créé l'homme pour contempler le monde de manière sensible comme un poète.
Oui, oui. Oui, bon, c'est une idée qu'on trouve pas seulement chez Superviel, hein, chez beaucoup de philosophes dans beaucoup de religions, mais voilà, tout dépend de ce qu'on entend par contempler. Si contempler, c'est... Il y a deux interprétations de contempler, hein. Effectivement, contempler, ça peut être... tout en étant dans l'univers, hein, voir les merveilles de l'univers, y déceler la présence d'un ordre, d'une beauté, etc. Puis, par contre, si contempler est pris au sens vraiment très fort, comme le prend Borges dans ce texte, ça voudrait dire... sortir de, hein, se mettre complètement à l'extérieur pour voir en quelque sorte l'univers comme un objet, c'est cet aleph là, et ça, c'est une sorte de fantasme, nous dit Borges, hein, c'est un rêve vieux comme l'humanité, hein, mais c'est une hubris, c'est une démesure fondamentale, hein, personne ne peut se mettre dans cette, sauf à être Dieu. Vous savez que, alors là il faudrait parler bon, de la théologie et de, mais une des premières définitions qui a été donnée enfin, dans la philosophie occidentale de quand on a essayé de parler de Dieu de manière un petit peu conséquente, c'est chez Aristote par exemple, hein, Dieu c'est celui qui se pense lui-même sans distance. La pensée de soi sans distance, on trouve ça dans la physique d'Aristote et dans sa métaphysique, c'est un peu ce qui est impossible à l'homme. Hein. Il est toujours dans la dualité Narcisse. Narcisse, regardez, il essaye d'abolir la distance pour... Mais il trouve quoi ? Il trouve la mort. La mort, il se noie. Il voudrait en quelque sorte devenir Dieu. Dieu, c'est quelqu'un qui ne se voit pas dans l'espace ni dans le temps, dans la théologie. Hein. C'est quelqu'un qui se pense lui-même et qui, en se pensant, crée le monde. Hein. Voilà. Si contempler, c'est ça, Borges dit c'est un peu une aventureuse coordination de mots. Hein. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus. Un sens de la finitude, hein, chez Borges, hein, nous sommes dans le monde, nous n'en sortirons pas, n'essayez pas de construire d'incroyables constructions métaphysiques pour essayer de dire ce que c'est que le monde, vous n'y arriverez pas, par contre vous êtes dans le monde, vous le sentez, hein, et vous ne pouvez pas faire autre chose que d'en donner des reflets partiels et puis d'en avoir un sentiment. Alors ceux qui ont une croyance religieuse par exemple, ça peut leur paraître court peut-être, hein, puisque dans la religion il y a l'idée quand même que le monde, on peut en dire quelque chose dans les monothéismes, c'est-à-dire que il a été créé par un dieu, etc. Borges ne va pas jusque-là, parce que pour lui, ça lui paraîtrait excéder la puissance de la raison humaine. C'est pourquoi il déclare « je suis un agnostique ». C'est-à-dire, il n'y a pas pour moi de connaissance rationnelle. Alors, on pourrait après lui opposer, on pourrait lui dire, mais enfin, pour Pascal, par exemple, c'est que c'est le cœur qui sent Dieu. Pascal dit, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et donc, rien de plus conforme à la raison, dit-il, que ce désaveu de la raison. La raison elle-même se déconnecte, en quelque sorte, pour laisser la place au cœur. Et c'est le cœur qui sent Dieu, hein, dit-il dans des textes célèbres. Alors là, on est dans une autre, on est dans la foi. Hein. C'est tout à fait autre chose.
Oui. J'aimerais revenir un instant sur ces propositions que vous avez faites sur rapport poésie...
Deux.
Rapport poésie, métaphysique, fiction. Il y a une chose que je ne perçois pas suffisamment après vous avoir entendu, c'est au fond le sens du recours à la fiction. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que de faire une fiction ?
Oui.
Et ceci, en tant que, allons au bout, au fond, geste métaphysique en un sens. Au fond, si je comprends bien, la fiction est le seul geste métaphysique possible, puisqu'il n'y a pas de métaphysique au sens,
oui, oui.
Au sens classique, la métaphysique n'étant qu'une branche de la littérature fantastique, c'est ça.
Oui, hein, oui, oui. Je vais vous le dire un peu autrement. Qu'est-ce qui distingue les philosophes des poètes ? Ben, c'est que les poètes, les philosophes reconnaissent aussi la nécessité de la métaphore. Donc ils ne vont pas la développer, la métaphore, en fiction aussi baroque, compliquée que ça, mais je vais vous donner un exemple très simple. La métaphore, elle apparaît dans des expressions absolument communes. Par exemple, dans les prépositions. Les prépositions étaient beaucoup étudiées par Wittgenstein, par Heidegger. Quelque chose de simple. Je dis par exemple que je suis face au monde. Ça peut paraître que j'ai une représentation du monde, que je suis face au monde. Ça peut paraître absolument innocent de dire ça. En réalité, c'est plein de difficultés. Parce que qu'est-ce que veut dire face à ? Si je dis que cette chaise est face à la table, très bien, ça veut dire qu'elle est à 80 cm de la table. Imaginez qu'un enfant un petit peu à la tête philosophique vous dire « Papa, tu viens de dire que tu es face au monde, mais tu as combien de mètres du monde ?» Effectivement, nous ne sommes pas dans une distance assignable par un nombre au monde. Donc, ça veut dire que face à, quand je l'emploie pour parler du monde, c'est une métaphore. Alors, on peut continuer. Hein, beaucoup dans notre de langage, quand nous parlons du monde, hein, nous utilisons des métaphores. C'est pourquoi les philosophes, ben, comme les poètes, vont reprendre les métaphores, mais en les affinant, en les travaillant. Par exemple, hein, Heidegger dit... et c'est pas le seul procédé, la métaphore. Heidegger dit, par exemple, le monde... Qu'est-ce que c'est que... L'être. Alors, l'être, pour Heidegger, il faut l'entendre au sens d'un verbe, hein, d'un verbe substantivé. En français, c'est un substantif, en allemand, c'est plutôt un verbe substantivé. Donc, qu'est-ce que c'est que le fait d'être ? Le fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien ? Ben justement, ce n'est pas un fait. Parce qu'un fait, c'est dans le monde. Un événement, ça n'existe que dans le monde. Donc c'est pas un fait, on est obligé d'employer le mot fait. Alors qu'est-ce qu'il il emploie toutes sortes de métaphores, il use les métaphores, il en emploie des quantités pour essayer de dire qu'il y a quelque chose plutôt que rien, ou plutôt qu'il y a le monde. Mais il y a, alors il fait une analyse du il y a, etc. Toutes les expressions que nous employons ont du mal. Alors qu'est-ce qu'il termine par des métaphores. Il dit nous sommes dans la clairière de l'être. D'un seul coup, ben voilà, quelque chose s'éclaircit et puis il y a le monde. Oui, mais clairière, c'est une métaphore. Une clairière, on sait bien ce que c'est. Hein. C'est dans une forêt, etc. Donc toutes les expressions que nous employons, on a essayé de faire la même chose avec, par exemple, le temps. C'est très difficile. Hein. Si vous dites le temps est une succession d'instants, vous réintroduisez dans la définition ce qui est à définir. Dans un texte célèbre des Confessions, au chapitre 11, hein, saint Augustin dit « Mon Dieu, tant que tu me demandes, tant que tu ne me demandes pas ce que c'est que le temps, je sais ce que c'est. Et puis quand tu me le demandes, je ne le sais plus. » Et je crois qu'on est un peu devant la même chose. Qu'est-ce que c'est que l'univers? Dès qu'on essaie d'en parler, on tombe dans des embarras, d'où des procédés qu'utilisent les poètes et qu'utilisent les philosophes. Alors les philosophes, ils ont mis au point une gamme incroyable de procédés. y compris des procédés qui peuvent vous paraître très très étranges. Hein. Par exemple, ils ont utilisé un procédé qui est la tautologie. La tautologie consiste... C'est quelque chose qui est interdit en logique. Une tautologie au sens banal, c'est dire, c'est une lapalissade. Hein. Si je dis qu'une chaise est une chaise, bon, c'est pas très avancé. Il y a un poème très célèbre hein, d'un mystique philosophe qui s'appelle Angelus Silesius, hein, qui dit « Die Rose ist ohne warum. Sie blüht, weil sie blüht. » La rose est sans pourquoi. Elle fleurit parce qu'elle fleurit. C'est absurde d'un point de vue scientifique. Hein. Pour le biologiste, la rose fleurit, on sait pourquoi. Oui, mais si la rose, c'est le nom de l'univers, de ce qui s'épanouit, et c'est le cas sur Gélius, ben, parler de la cause de l'univers, c'est un peu ce que les logiciens appellent une erreur de catégorie. C'est-à-dire qu'on parle d'une cause de ce qui est dans l'univers, mais une cause de l'univers, sauf à faire intervenir un dieu transcendant qui aurait créé, etc. Mais si vous n'avez pas ce recours-là, ben vous dites le monde est là parce qu'il est là, quoi. Alors il y a beaucoup de procédés comme ça, hein, ce qui explique que Heidegger, par exemple, dit des choses dont on s'est un peu moqué, hein, dit Welt Weltet, le monde mondanise. Hein. Oui, je sais que tu n'aimes pas beaucoup, mais voilà. Où il dit Das Raum räumt, die Zeit zeitigt, bon, etc., etc., etc. C'est pas gratuit de sa part, hein. C'est aussi pour dire ben, c'est difficile de parler de la cause du monde. Hein. Donc on en parle, ou alors il emploie des procédés, ou d'autres emploient des procédés, ce qu'on appelle les langages apophantiques. Hein. Par exemple, il écrit être, puis il le barre. Ça veut dire, c'est un mot adéquat, mais j'arrive pas à le définir. Pascal, dans un texte très célèbre, l'entretien de Monsieur de Sacy, dit « Je ne peux pas définir le verbe être ». Et pourquoi je ne peux pas définir le verbe être ? Parce que si je le définissais, je dirais « être, virgule, c'est, etc. » Donc j'emploierais dans la définition, j'emploierais dans la formule chargée de définir ce qui est justement à définir, ce qui est la définition même d'un cercle logique, hein, que je n'ai pas le droit de faire. Hein. Donc c'est pourquoi il est extrêmement difficile de parler de l'univers. Alors, il y aura encore beaucoup de procédés. Hein, ce qui distingue un peu les philosophes des poètes, c'est que les philosophes sont conscients de ce que font aussi les poètes ou les écrivains ou les gens comme Borges, mais qu'ils essaient de le faire de manière systématique et puis surtout d'être extrêmement sobre dans les métaphores et d'essayer de trouver, quitte à être réduit au silence hein, à un moment, disant je n'arrive plus ce que veut dire l'univers existe. Hein. Wittgenstein en particulier dit « Je n'arrive pas à dire ce que veut dire l'univers existe parce que je ne comprends pas ce que ça voudrait dire l'univers n'existe pas. Voilà. » Je n'ai rien par contraste pour le penser. On n'est pas obligé de le suivre, hein, mais voilà. Oui, on s'embarque un peu sur des choses un peu compliquées et longues. Peut-être une toute petite courte dernière question.
Alors, Pierre, on a une question, mais on va peut-être faire le coup. Oui, sinon on passe au bar et on continue la discussion.
Bon,
et
on continue au bar.
Tu aimerais que tu poses la question.
On va peut-être essayer d'être bref.
Oui, c'est peut-être un détail, mais au fond, dans cette question, Borges se met en scène lui-même.
Pardon, un peu plus près, ce que je...
Borges se met en scène lui-même.
Oui. Hein.
C'est lui le poète.
Oh oui.
Et au fond, il décrit ce qu'il est en train de faire.
Exactement.
Sous forme de cette fiction. Ce qui fait qu'on peut se demander s'il n'y a pas aussi, pas seulement une dimension métaphysique, mais une dimension éthique.
Exactement.
Qu'est-ce que c'est que la poésie ? Que peut-elle faire ? Et cette fiction décrit en même temps l'effort, la grandeur de l'effort et sa vanité.
Oui, non, mais vous avez tout à fait raison.
Il y a tout cette aussi la vanité.
Oui, très court.
Mais y compris la philosophie.
Vous avez tout à fait raison. Il y a cette dimension-là toujours dans la poésie bourgeoise. C'est la réflexion réflexive où il est en train d'écrire sur lui-même avec une sorte d'ironie en même temps. Hein. Il y a une dimension ironique. Il dynamite un peu certaine image du poète. Voilà. Je vous remercie. Il est difficile d'en dire plus. De toute façon, la palabra del universo, on ne la dira pas. Donc, on ne la dira pas ce soir.